Daniel dans la fosse aux lions, histoire frappante qui a inspiré de très nombreux artistes, des peintres et d'autres encore. On trouve l'histoire deux fois dans le livre de Daniel, une fois en Daniel 6, où il est question du roi Darius, et une deuxième fois dans le Daniel grec, qui n'est pas dans les Bibles protestantes, c'est un texte deutérocanonique, mais c'est au chapitre 14 donc, du livre de Daniel. Je le cite parce que c'est à peu près la même chose, mais avec un autre roi, c'est Cyrus cette fois, avec quelques variantes. En particulier, on voit le prophète Habacuc qui va nourrir Daniel dans sa fosse. Et je dis ça juste parce que ça explique certaines illustrations, sculptures ou peintures que l'on trouve dans les anciens temps. L'interprétation de ce texte n'est pas simple. Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui, qui sommes, il faut bien le dire, quand même assez rarement confrontés aux lions? Alors d'abord, je me suis posé la question suivante. Qu'est-ce qui a fait que Daniel se trouve dans cette situation terrible? Pourquoi a-t-il été envoyé dans la fosse aux lions? Et là, en réfléchissant au texte, j'y trouve trois raisons. Trois raisons, bonnes ou mauvaises, mais en tout cas des causes qui s'accumulent. Et je crois qu'effectivement, souvent, pour qu'il y ait un problème, il faut qu'il y ait plusieurs causes, si vous voulez, concomitantes. Et là, je trouve trois sources de mal. La première, c'est la jalousie des satrapes et des autres gouverneurs. La jalousie est un véritable poison de l'humanité. C'est une source de mal. Et sur ce point, elle peut nous mettre en garde, parce qu'aucun de nous ne peut prétendre être indemne de la tentation de la jalousie. La jalousie, nous entraîne à vouloir rabaisser l'autre, à vouloir le déconsidérer, à lui nuire injustement. La jalousie, elle a aussi affaire avec l'envie. Quand on est envieux, jaloux des autres, ça ne génère que du mal. Et on le voit même dans la société où un bon nombre de désordres que nous avons subis même sur cette avenue avec les gilets jaunes et autres, parfois sont des revendications justes, mais dans beaucoup de cas, c'est simplement de l'envie par rapport aux autres. Et donc, quand on regarde les autres, qu'on trouve que l'autre a plus de succès que soi, plus d'envie, plus d'argent, plus de facilité, on ne génère que des choses négatives. Donc, la jalousie n'est pas une bonne chose. Mais cela dit, on pourrait dire que, d'une certaine façon, Daniel l'avait un peu cherché. Oui, c'est vrai, il était arrogant, il était près du roi, tout lui réussissait, donc c'est agaçant. Mais ce n'est pas une excuse. Le mal, je dirais, n'est jamais excusable. Et c'est comme quand, vous savez, à une époque, on disait certaines femmes, si elles sont violées, peut-être qu'elles l'ont un peu cherchée parce qu'elles ont une attitude provocante ou autre. Non. Le viol est toujours un crime, point. Et le mal est toujours un crime, point. Donc, peut-être que Daniel était arrogant, c'est pas une raison. Les satrapes sont inexcusables, la jalousie et l'envie sont toujours mauvais et ça génère des catastrophes. Deuxième source de problème qui a généré cette histoire, qui me fait réfléchir aussi, c'est l'obstination du roi. Le roi Darius, a priori, n'était pas un mauvais sujet. Il aimait bien d'ailleurs Daniel et il était plutôt gentil, mais il a été pris à son propre piège et il a décidé quelque chose, il a été obligé d'aller jusqu'au bout. Le texte nous le dit bien, à Babylone, la loi, une loi qui est édictée, elle est irrévocable. Sinon, on considère que ça décrédibilise le pouvoir et donc c'est irrévocable. Le roi a décidé, c'était dit, de ne pas adorer qui que ce soit d'autre que lui pendant un mois. Il a été mal conseillé, il a été poussé par des envieux. Du coup, le roi a édicté cette loi sans trop réfléchir aux conséquences. Après, il ne voulait plus se dédire, il l'applique et ça a généré le problème. Et je me dis aussi que, tiens, voilà, une autre source de danger dans notre existence. C'est que c'est toujours un problème quand on n'est pas capable de revenir sur une décision qu'on a prise ou pas capable de se remettre en cause. Le roi a pris une décision un peu rapide, il n'a sans doute pas bien tout réfléchi, et après il ne veut pas se dédire et donc ça génère des catastrophes. Et je crois que c'est plus important qu'on ne le dit cela, parce que, en particulier, vous savez que les réformateurs se sont opposés très fermement à ce qu'on appelle les vœux perpétuels. Ça concernait à ce moment-là, en particulier, les vœux des religieux, des moines ou des moniales qui, à 18 ans, faisaient le vœu d'être religieuse pour toute sa vie. Et les réformateurs disaient non, quand un vœu ne concerne que soi, je ne parle pas d'un engagement par rapport à d'autres gens, hein, par exemple dans le mariage ou autre, mais quand le vœu ne concerne que soi, il n'y a aucune raison de dire qu'à 40 ans, je sois lié par un vœu que j'ai fait à 18. Parce que les événements peuvent changer, la situation peut évoluer, et je n'avais peut-être pas à 18 ans une vision réelle, globale et suffisante de toutes les conséquences de ce que j'ai pu décider ou voulu faire. Et donc oui, il faut faire attention à ça et être capable de se remettre en cause et de ne pas être obstiné. L'obstination, de persévérer dans le mal, est une erreur grave et il faut avoir le courage parfois de dire oui, je me suis trompé, j'ai eu tort et donc je fais les choses autrement. Et finalement, quand on voit bien, je dirais, Darius n'était pas un mauvais bougre. D'ailleurs, quand il découvre, ce qu'il n'avait pas vu auparavant, que son ami Daniel est coupable de cette loi idiote, il le regrette. Il passe une mauvaise nuit, il ne mange rien, il ne dort pas, il ne va même pas voir la moindre des concubines. Quelle affaire! Et finalement, Darius semble un chic type, mais il devient un assassin parce qu'il est obstiné et parce qu'il a refusé de revenir sur une décision. La troisième cause, de plus en plus discutable, c'est, je dirais, l'intégrisme de Daniel. La troisième cause, oui, c'est bien ça, la foi de Daniel. Il était interdit d'adorer qui que ce soit d'autre que le roi pendant un mois. Et voilà que Daniel, par une sorte de provocation, va prier fenêtre ouverte vers la grande ville trois fois par jour. C'était courageux, mais un peu idiot, non? Enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est discutable. Alors Daniel, à cause de cela, a été montré dans l'Antiquité en particulier comme un modèle du martyr pour la foi. Il a fait preuve de courage. Il a fait preuve d'audace, il a montré sa foi malgré le danger, une sorte d'héroïsme de la foi. C'était courageux, mais est-ce que c'était vraiment juste et mesuré comme attitude? En fait, on pourrait dire que Daniel a risqué sa vie d'une manière un peu bête. Bon, un mois, sans adorer Dieu ouvertement, est-ce que c'est grave? Beaucoup de nos paroissiens ne vont pas au culte pendant un mois, ils s'en portent très bien. Ils pouvaient attendre un peu, le faire discrètement pendant un mois et ne pas faire d'histoire. Est-ce que ça valait de risquer sa vie pour ça? Et donc je me demande si Daniel n'avait pas été un peu, je dirais, radicalisé dans sa foi. Et quand notre foi devient intégriste, devient rigide, eh bien, ça risque toujours de générer de la violence inutile et il n'est pas certain que ce soit toujours productif. Mais bon, en disant ça, je me questionne moi-même parce que c'est compliqué quand même la question de l'attitude de Daniel, parce que néanmoins, je ne vais pas défendre l'hypocrisie dans la foi ou la dissimulation ou ce qu'on appelle le nicodémisme. Vous savez, Calvin a écrit un livre contre les nicodémites. Les nicodémites, oui, pourquoi? Parce que dans l'évangile de Jean, on parle de Nicodème qui va voir Jésus de nuit. Et on disait à ce moment-là qu'il faisait ça pour pas avoir d'histoire. Et Calvin avait dit, c'est insupportable. Ces gens qui n'ont pas le courage, d'avoir leur foi au grand jour. Et il disait, il faut avoir le courage de sa foi, et les Nicodémites sont condamnables. Alors c'est vrai que pendant les guerres de religion, la question se posait. Les protestants qui étaient condamnables, envoyés aux galères, et les pasteurs condamnés à mort, est-ce qu'ils devaient provoquer ouvertement en confessant leur foi devant tout le monde, au risque d'être tués ou enfermés, ou est-ce qu'ils devaient faire semblant d'être catholiques et de continuer à faire leur foi en cachette la nuit? Calvin a dit, ce n'est pas bien. Quand je demande à mes catéchumènes qui ont 16 ans, qu'est-ce qu'ils feraient? Eh bien, tous sont nicodémites. Tous disent, bah oui, évidemment, j'aurais continué à avoir ma propre foi dans le secret et j'aurais fait semblant pour ne pas être condamné à mort. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que, effectivement, Calvin, d'une certaine façon, a raison, parce qu'il est contre ceux qui n'ont pas le courage de leur foi, ceux qui ont peur des autres. Et nous devons, notre foi, on doit l'assumer, quel que soit ce que pensent les autres, quelle que soit la vie de notre propre famille même. Le Christ, lui, n'a pas eu peur de témoigner, au péril même de sa vie. Et Étienne, le diacre, le premier martyr dans les Actes des Apôtres, il a eu le courage de professer sa foi et il en est mort. Et tous les apôtres, tous les premiers chrétiens du premier siècle sont tous morts de mort violente pour leur foi. Et nous, on en fait quoi de cela? Et même, comme je vous le disais, plus proche de nous, les protestants du XVIe siècle pendant les guerres de religion, qui avaient le courage de professer leur foi. Et quand on dressait un bûcher, dit-on, pour brûler un protestant, et que le protestant, à ce moment-là, chantait à tue-tête ce psaume des batailles que nous avons chanté tout à l'heure, « Que Dieu se montre seulement, et l'on verra en un instant abandonner la place des ennemis épars », et qu'il chantait debout, au milieu des flammes, le psaume des batailles, et que ceux qui assistaient à ça étaient bouleversés par cette foi extraordinaire, et qu'il y avait... Pour un protestant brûlé, il y avait 20 personnes ou 100 qui se convertissaient, ce qui fait que les officiers du roi avaient donné comme ordre de dire « Quand vous brûlez un protestant, mettez du bois vert ». Comme ça, ça faisait de la fumée et l'hérétique n'avait pas le temps de chanter son psaume 68 et il mourait étouffé, asphyxié avant d'avoir le temps de le chanter, ce qui était d'ailleurs plutôt mieux pour lui sûrement, mais en tout cas... Ces gens-là avaient une foi extraordinaire, et si je suis là aujourd'hui avec le plaisir de vous parler, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux. Donc finalement, je dois dire que oui, je suis pas certain finalement de condamner Daniel. Daniel a eu du courage, il a eu le courage de sa foi, de l'affirmer, même devant tout le monde, et il a bien fait. On n'a pas à, je dirais, à baisser les armes et à s'avouer vaincu devant ceux qui prétendent qu'on devrait adorer les lois de la laïcité, si vous voulez. La laïcité n'est pas une mauvaise chose, mais néanmoins, je n'adore pas les lois de la République. Voilà, j'adore Dieu, et c'est tout. Et ceux qui me disent « Vous devez garder votre foi uniquement dans votre intimité, et surtout qu'on ne voit rien dépasser dans l'espace public », je dis « Mais je suis désolé ». Ma foi et ma manière de vivre, et je ne veux pas embêter les gens par prosélytisme ou autre, mais ma foi, si elle est visible dans le monde, eh bien, tant mieux. En tout cas, il est hors de question que je me cache. Et donc, oui, je n'adore pas le roi, je n'adore pas les lois de la République, mais comme Daniel, j'ai le plus grand respect pour les lois de la République. Daniel, d'ailleurs, vous l'avez entendu dans le texte, quand il sort de sa fosse au lion, la première chose qu'il fait, c'est de dire « Longue vie à toi, ô roi !» Donc, il fait tout à fait ce qu'il faut, il a le plus grand respect et il a raison. Donc voilà, je ne sais pas, la question est compliquée, mais en tout cas, professer sa foi devant tout le monde n'est pas une chose très évidente et ça peut vous amener dans des situations périlleuses, c'est vrai. Mais regardons de plus près, en fait... Quelle est la cause immédiate pour laquelle Daniel est jeté dans sa fosse au lion? La cause immédiate, c'est que il priait 3 fois par jour. Alors ça, je trouve ça très bizarre. Parce que, en fait, pourquoi Daniel a-t-il été envoyé dans la fosse aux lions ? C'est parce qu'il priait avec constance son Dieu. Belle récompense pour quelqu'un qui prie. Et si Dieu est le maître de toutes choses, alors on prie et on se trouve dans une fosse aux lions. Alors qu'on enseigne, et j'enseigne moi-même, que la prière apporte tant de bienfaits. Quand on prie, Dieu vous comble de grâce. Et la prière, c'est là pour nous apporter du bien, des merveilles. Et voilà que, apparemment, là, c'est le contraire. Et donc, il y a une sorte de contre-exemple qui montre que, finalement, je dirais, l'efficacité de la prière peut être à l'envers. Et que vous pouvez très bien prier Dieu, et au lieu que ça vous amène de l'avantage, ça vous emmène une catastrophe. C'est très, très curieux et très paradoxal. Alors, vous me direz, mais si, parce que grâce à la prière, Dieu l'a libéré des lions. Oui, mais attendez, moi qui ai un peu mauvais esprit, il l'a libéré de quoi ? La prière a libéré Daniel d'un problème qu'il a eu à cause de la prière. Donc, Dieu a libéré Daniel d'un problème qu'il n'aurait pas eu s'il n'avait pas prié. Donc, il aurait pu ne pas prier du tout, le problème, il serait revenu au point de départ. Donc, il y a là un paradoxe tout à fait étonnant. Et en fait, ça montre quand même quelque chose. D'abord, ça remet un peu la prière à sa juste place. La prière n'est pas une sorte de talisman magique qui fait que si je prie, j'ai que des chances dans ma vie. Je peux prier, et la prière peut m'emmener des difficultés matérielles, parce que l'engagement du chrétien n'amène pas qu'un chemin de pétales de rose, si vous voulez, c'est aussi des batailles, c'est aussi des choses compliquées parfois. Et puis la prière n'empêche pas d'être parfois confronté à des épreuves extrêmement difficiles, parce que finalement, non, c'est pas la prière qui a envoyé Daniel dans la fosse aux lions. Les satrapes cherchaient toutes les excuses possibles pour l'envoyer dans la fosse aux lions, et il n'y aurait pas eu la prière, ils auraient trouvé autre chose. Donc non, c'est pas la prière qui a envoyé Daniel dans la fosse aux lions, c'est la méchanceté des satrapes. Et en fait, peut-être que la prière l'a aidé, enfin je ne sais pas. Donc la vraie question, c'est plutôt, la prière n'empêche pas toutes les épreuves, mais qu'est-ce qui a libéré Daniel de la fosse aux lions? Donc voilà, je passe à l'étape suivante. Qu'est-ce qu'a libéré Daniel de la fosse aux lions? Alors en fait, je ne sais pas, parce que le texte ne nous dit rien. Certains disent que Daniel a prié dans la fosse aux lions, et que ce serait justement la prière de Daniel qui aurait sauvé Daniel dans la fosse aux lions. Mais le texte ne le dit pas. Le texte ne dit pas « Daniel, dans la fosse, continuait à prier son Dieu avec une ferveur immense et Dieu lui est apparu et l'a libéré ». Non, on ne sait pas ce que faisait Daniel dans la fosse aux lions, peut-être même qu'il ne priait pas. Alors dans l'iconographie ancienne, on montre un peu de tout. On montre parfois Daniel sur certains tableaux en train de prier, effectivement. On voit d'autres textes, d'autres images, je ne sais pas si j'en ai trouvé, où on voit Daniel qui joue avec les lions comme on joue avec un petit chien ou un petit chat. Et on voit d'autres passages, d'autres choses étonnantes, comme certains chapiteaux romans, où on voit Daniel qui s'ennuie. Il a l'air, il est assis dans un coin, les lions autour, et il a l'air de s'embêter royalement. Et donc Daniel qui ne fait rien. Alors, qu'est-ce qui a sauvé Daniel? J'ai une idée. Peut-être que la solution se trouve dans la parole même de Darius, qui va dire à Daniel pourquoi il a été sauvé. Et Darius lui dit « Tu as été si constant, si fidèle à Dieu qu'il te délivrera. » Et donc oui, je pense que c'est bien la prière qui a aidé Daniel, mais pas forcément la prière momentanée qu'il aurait faite ou pas dans la fosse, mais en fait sur le long terme. C'est-à-dire, c'est la persévérance de Daniel qui a prié longtemps avant même la fosse aux lions, et que cette prière qui a précédé la fosse dont on nous parle est en fait cette chose qui lui a donné une force formidable, même au moment où sont venus les lions. Et donc, en fait, vous voyez, la prière n'a pas forcément une action immédiate. J'ai un problème, tout à coup, ah oui, je prie, et puis toc, ça y est, Dieu me libère. Mais en fait, la prière est une action sur le long terme. Et c'est donc la persévérance, la fidélité, la force de Daniel qui, longtemps, toujours et toujours, cherchait cette présence de Dieu. Et quand il est arrivé dans la fosse aux lions, peut-être même que là, il n'avait plus la force de prier. Mais néanmoins, c'est toute cette prière qui le précédait qui l'a sauvé. Alors, cette foi, cette prière, cette fidélité à Dieu, admettons, a sauvé Daniel. Mais il l'a sauvé de quoi? Eh bien, de deux choses. Ça l'a sauvé des lions et de la fosse. Et là encore, on peut essayer de trouver ce que cela signifie, c'est-à-dire, admettons, la fidélité nous sauve, mais ça nous sauve de quoi exactement? Alors les lions m'intéressent. Les lions dans la Bible, ils sont désignés d'ailleurs par un mot qui veut dire « arracher ». Le lion, c'est celui, en hébreu, celui qui arrache, qui arrache avec ses dents. Alors comment tue un lion? Il faut reprendre les choses de près. Comment tue un lion? Alors là, vous pourrez demander à mon ami Alexandre Romanes, qui est là, donc alias Joseph Bouglione, qui est mon seul ami dompteur de lions. C'est ça, Joseph? Alexandre. Et donc lui, il a été dans les cages aux lions. Il connaît le danger des lions. Il a des amis qui ont été dévorés par des lions. Et si j'ai bien compris, mais vous en dira plus, le lion, il arrache des membres. Vous m'avez dit que l'un de vos amis s'est fait arracher un bras par un lion. Et donc il arrache des membres, ensuite il éparpille les morceaux dans la cage, et puis il mange tout par morceaux. En tout cas, c'est l'image qu'on en a dans la Bible. Alors je ne sais pas si c'est vrai, vous me direz, mais en tout cas dans la Bible, le lion c'est celui qui arrache, qui disperse et qui mange les morceaux ensuite. Donc le lion est différent du poisson de Jonas, si vous voulez, qui avale Jonas tout d'un coup et qui recrache. Le lion, il met tout en morceaux, il l'écartèle, il l'éparpille, façon puzzle, je dirais. Et donc le lion, dans la Bible, est l'image du diable. Parce que vous savez, le mot diable, c'est connu pour ceux qui fréquentent nos assemblées. Diable, ça vient du grec diabolos, diabalein, qui veut dire éparpille, jeter aux quatre coins. Le diable, c'est ce qui éparpille. Et en fait, le miracle, c'est que grâce à Dieu, Daniel ne va pas être éparpillé, ni disloqué en morceaux, mais il va rester intègre, il va rester un. Et là, c'est assez difficile parce que dans notre vie, il y a plein de choses qui nous dispersent, qui nous écartèlent, parce que nous sommes pris par des événements qui nous ballottent, qui nous emmènent à gauche, à droite, qui nous font peur, qui nous donnent envie, qui nous donnent de l'espérance, du désespoir, de la crainte, de la tristesse. Et donc notre vie, elle est éclatée et explosée dans tous les sens. Je dirais, on est tiraillé, dissipé, dirais-je, aux quatre coins. Et la grosse difficulté, c'est d'arriver à faire l'harmonie de notre vie et à retrouver l'unité de notre vie. Arriver à nous recueillir. Voilà, le recueillement, c'est un terme que j'aime bien, qui est quelque chose qui est de l'ordre de la prière. Le recueillement, c'est se rassembler. Arriver à faire en sorte que tout ce qui dans notre vie va aux quatre coins, eh bien on arrive à le rassembler en un ensemble cohérent pour en faire quelque chose d'harmonieux et d'unique. Comme on fait un bouquet, si vous voulez, on va cueillir des fleurs à gauche et à droite et on arrive à les rassembler en un seul joli bouquet. Ça, c'est le but de notre vie. Et donc, le lion, c'est tout ce qui, dans notre vie, nous disperse, nous éclate, nous fait partir dans tous les sens. Et avec l'aide de Dieu, nous pouvons trouver quelque chose qui nous rassemble et qui nous remet en un. Je crois qu'il y a un psaume, je crois que c'est le psaume 87 où le psalmiste dit « unifie mon âme pour qu'elle te glorifie » ou quelque chose comme ça, je crois. Et donc, oui, arriver à s'unifier, se rassembler, se recueillir, faire un ensemble, comme l'image du bouquet, je vous disais, il faut trouver quelque chose qui soit le cœur, l'ossature de notre être, et ça, c'est Dieu lui-même. et donc rassembler notre vie autour de cette tige centrale qui est Dieu, pour faire un bouquet glané de tout ce que nous avons ramassé dans notre vie, de joie, de peine, de crainte, d'échec, de regret, d'espérance. On rassemble tout ça en un pour en faire quelque chose de cohérent et de possible. Alors Daniel ainsi arrive à survivre à tout cela, à survivre à tout, grâce, je dirais, par rapport à l'injustice, la jalousie, la fosse au lion, menacé d'être mis en pièces, mais grâce à sa foi et à sa constance, il va résister à ces lions déchirants, déchireurs, et se retrouver intègre. Alors Daniel dit, il explique lui pourquoi il s'en est sorti, et il dit, l'ange de l'Éternel est venu et il a fermé la bouche des lions. Alors voilà ce qui a aidé Daniel aussi, l'ange de l'Éternel. Vous le savez, l'ange, en hébreu comme en grec, ça veut dire le messager, donc l'ange c'est la parole de Dieu. Voilà ce qui a aidé Daniel, c'est la parole, donc l'écriture, bien sûr, et puis la parole de Dieu, c'est aussi la parole intime que Dieu me dit dans la prière. Et ça m'intéresse parce que là encore, ça nous donne une petite leçon sur la prière. Parce que pour beaucoup de gens, prier, c'est adresser des paroles à Dieu. Alors que prier, c'est avant tout écouter ce que Dieu me dit. Ce que je trouve à l'intérieur de moi-même, si vous voulez. De trouver une parole intime, une voix du cœur. Et je crois que Dieu nous parle quand on en a besoin. Et quand on a cette attitude de la prière, finalement assez étonnante parce que, je dirais, Dieu ne nous parle pas toujours dans la prière et souvent on parle à Dieu et on a l'impression de parler dans le vide et que personne ne répond. Mais Daniel a prié avec persévérance et pendant des journées, des semaines, des années, il priait Dieu 3 fois par jour et tout à coup, dans la fosse au lion, Dieu lui parle. Au moment où il en a besoin, cette parole intime devient quelque chose qui le sauve. Et cette parole devient ce qui va le libérer des lions, va fermer la gueule des lions pour le libérer de toutes les forces, je dirais, d'explosion et de tentation et de mort. Donc voilà, libérer des lions, c'est déjà pas mal. Ensuite, il est libéré, sorti de la fosse. Alors là, il y a un petit risque de contresens. C'est que l'interprétation première de cette fosse, c'est qu'il s'agirait d'un tombeau. Je pense que cette idée est venue en particulier de la proximité avec l'histoire de Jésus, envoyé dans le tombeau. De la même manière, Jésus a été condamné avec des faux témoignages, et on l'a mis dans un trou, on a mis une pierre par-dessus, et d'après l'évangile de Matthieu, avec un sceau qui bloque la pierre. Donc il y a un parallèle exact entre Daniel dans sa fosse au lion et Jésus dans son sépulcre. Ce qui fait qu'on a vu en Daniel une sorte de figure, je dirais, préfigurant, d'image préfigurant le Christ, et les lions sont vus comme les bêtes de la mort et de l'enfer. Bon, pourquoi pas, moi ça ne me parle pas beaucoup cette histoire, si ce n'est que Dieu nous libère de la mort. Oui, il nous libère de la mort parce qu'il nous donne la vie éternelle. Et puis peut-être qu'il nous libère aussi de toutes les fosses mortelles dans lesquelles il nous enferme. Et ça, c'est comme ça que j'interprète en particulier la résurrection de Lazare. Parce que je ne crois pas que Dieu ressuscite physiquement les morts de leur vivant, si je peux dire, enfin sur cette terre. Mais la résurrection de Lazare, c'est ça, c'est Lazare. Il a été enfermé dans la fosse par les autres qui ont dit « Il est foutu, il est comme mort, il n'en s'en relèvera pas. » Et puis d'abord, ça fait 3 jours qu'il est là-dedans, il est terminé et même il sent déjà, il pue, on n'en veut pas. Et Jésus libère Lazare de cette fosse, justement, de ce tombeau et lui dit « Sors de là !» Et Jésus libère Lazare comme Dieu peut nous libérer de tous nos enfermements mortifères dans lesquels les autres veulent nous enfermer et rajoutent une pierre par-dessus et encore un sceau pour bloquer. Eh bien, il y a une puissance de vie qui nous permet de sortir de toutes les fosses mortuaires dans lesquelles la vie ou les autres veulent nous enfermer. Donc nous pouvons nous libérer je dirais, de désenfermement, du deuil même, de la tristesse, du découragement. Et avec le Christ, nous pouvons être ressuscités avec lui et être de nouvelles créatures. Bon, ça c'est beau et je m'enflamme, mais c'est faux. Parce que le mot dans le texte, ce qu'on a traduit par le mot « fosse », n'est pas du tout une fosse, en fait, c'est une citerne. Donc il est dans une citerne, pas dans la fosse au lion, c'est la citerne au lion. Une citerne, c'était normalement, effectivement, une fosse, d'accord, mais pas un tombeau dans lequel on mettait de l'eau. Là, apparemment, la citerne était vide, sinon il n'y aurait pas eu de lion dedans, ni lui. D'ailleurs, je ne sais pas comment les lions sont descendus, c'est une autre affaire. Mais donc, en tout cas, c'est une citerne. Et en tout cas, on ne mettait jamais les morts dans les citernes, ça ne se faisait pas. Donc ce n'est pas un tombeau, l'histoire de Daniel, cette histoire ne va pas. Mais par contre, le symbole m'intéresse. Le drame de Daniel, c'est qu'il était dans une citerne sans eau. Un lieu où il aurait dû y avoir de l'eau et où il n'y en avait pas. Et là encore, c'est quelque chose qui nous menace, la sécheresse. La sécheresse, quand nous avons l'impression que notre vie est sèche, qu'elle est aride, qu'elle est dure comme la pierre, qu'elle est comme un désert, quand on a l'impression que rien ne pousse, il n'y a pas une fleur, pas une verdure, et qu'on est juste dans un endroit totalement minéral et invivable. Et là, parfois, nous voulons gratter le sol de notre vie, nous voudrions y trouver un peu de joie, un peu de quelque chose, et on n'y trouve rien que de la peine, de la sécheresse, et de la stérilité totale. Et parfois, on peut avoir l'impression, même sans les lions, d'être enfermé dans sa vie, dans une existence sèche, vide et creuse. Et quand on est dans ce vide insupportable, eh bien, les lions ne sont pas loin, qui viennent nous déchirer, nous mettre en doute et faire partir notre vie dans tous les sens. Et donc, effectivement, voilà ce qui se passe, et la ressource de cela, c'est de la sécheresse, et bien c'est encore Dieu qui l'apporte par la parole, on l'a dit, et ça, pour, je ne peux pas tout développer, mais dans le même évangile de Jean qui commence en disant que le Christ est ce porte-parole par excellence, et bien le Christ lui-même a dit « Je suis la source de l'eau de la vie ». Et donc, effectivement, nous avons une source de vie qui peut nous libérer de cette citerne desséchée. Et que la réflexion dans l'Évangile ou la vie spirituelle peut irriguer notre vie pour que notre vie ne soit plus une citerne sèche et vide, mais qu'il y ait une source bondissante, fraîche et vivifiante. Et à ce moment-là, on peut sortir de cette citerne sèche. Et donc Jésus dit « Celui qui vient à moi n'aura jamais soif ». Et ainsi, peu importe, dirais-je, qu'il y ait dans notre vie des moments de sécheresse, de tentation ou de crainte, peu importe qu'il y ait des moments où je me sente environné par le vide, par le rien, par le non-sens, ou même par des lions qui seraient des paroles dangereuses, par la jalousie, la méchanceté, l'égoïsme ou la haine, quand je vois ces lions qui me menace, je sais que j'ai moi un plus grand protecteur qui est Dieu lui-même et qui empêchera ces lions d'être autour de moi et qui ne m'évitera peut-être pas d'être jeté dans la fosse, mais qui m'évitera que ces lions me touchent et qui permettra que je puisse sortir de cette fosse. Et soit vous avez une grande foi et vous dites ce Dieu, c'est cette présence de Dieu, c'est ce Christ qui vous accompagne. Soit vous dites comme Daniel que ce qui vous sauve c'est la parole, et la parole elle est objective, c'est une réflexion, un contenu sur lequel on peut réfléchir, travailler, approfondir. Il y a des dimensions intellectuelles aussi là-dedans. Mais moi j'ai mon ami Jésus qui est source éternelle d'une eau de vie, source de vie, de joie et de résurrection, et qui me libère de tous les lions dévorants et qui me fait sortir de toutes les fosses dans lesquelles on voudrait m'enfermer. Amen. Thank you.